Bonjour chers auditeurs de Radio Grand-Ciel, bienvenue dans notre studio de Chartres où nous accueillons aujourd'hui avec un grand plaisir Éric de Montigny qui est calligrapheur lumineur professionnel. Bonjour monsieur Montigny,
Bonjour. Je
suis très heureuse de vous recevoir car vous allez nous faire découvrir un sujet qui est sans doute trop peu connu, les calligraphies américaines. Ce sera aujourd'hui notre thème. Rappelons que vous êtes chargé de cours à l'École internationale du vitrail et du patrimoine à Chartres, organisée par le Centre international du vitrail. Ce sont des cours ouverts à toute personne intéressée à s'initier grâce à votre atelier dans l'art de la calligraphie. Pouvez-vous peut-être nous présenter un peu votre manière de procéder quand vous enseignez la calligraphie?
Alors, c'est effectivement ouvert à tout le monde, que les personnes aient déjà pratiqué ou pas du tout, qu'elles soient entièrement novices. Et cette année, nous allons travailler sur un très beau manuscrit qu'on appelle un psautier doré, donc un livre religieux contenant les psaumes, et certainement l'un des plus richement décorés de cette époque-là. Donc ça nous permettra de voir ce qu'il en luminure, au-delà du côté purement technique, quelques éléments de symbolique, ainsi que de voir une écriture majeure, puisque ça va être une écriture de transition qui aboutira par la suite à une écriture de type gothique.
Voilà. Vous êtes aussi chrysographe, ce qui veut dire que vous travaillez aussi avec de l'or.
Oui, alors déjà dans l'enluminure, nous travaillons avec de l'or à la base, puisque enluminure est basée sur le terme de lumière, enluminare, mettre en lumière. Donc on mettait de l'or dans le manuscrit, ce qui permettait à ce que la lumière soit réfléchie par l'or, et d'où la lumière semblait sortir du livre. Et chrysographe, c'est les écritures à l'or, soit à la feuille d'or, soit à la poudre d'or. Mais oui, on utilise un petit peu d'or.
C'est assez onéreux, j'imagine, avec le prix de l'or qui ne cesse de monter et de redescendre plus rarement.
Ces derniers temps, c'est sûr, puisque l'or a été une valeur refuge. Mais au niveau des cours qui vont être donnés au Centre international du vitrail, nous n'allons pas travailler l'or. Donc au niveau du matériel, c'est extrêmement raisonnable. En général, comme je dis, une bonne vingtaine d'euros suffisent pour démarrer.
Et il y a sans doute un papier spécial que vous allez prévoir pour cet atelier.
Alors, au début, là aussi, ce n'est pas onéreux puisque nous allons nous entraîner sur un papier vraiment standard, un papier pour photocopieur ou imprimante. Après, lorsqu'on commence à avoir de très belles réalisations, oui, on choisit de très beaux papiers. Mais ça, c'est par la suite.
Comme nous allons parler de calligraphie américaine, le support sort forcément du papier parce que quand le nouveau continent a utilisé l'écriture, il y avait déjà le papier depuis un certain temps. Ouais. Alors qu'on, sur le continent, vous voulez peut-être rappeler l'évolution qu'a fait le support de l'écriture.
Oui.
Des tablettes d'argile.
Alors c'est vrai qu'on a commencé avec des tablettes d'argile. On a utilisé par la suite le papyrus largement diffusé sous l'Empire égyptien. Par la suite, sous les Grecs aussi, les Phéniciens, et puis la Rome antique. Puisque l'Église utilisera, elle, du papyrus pour tout ce qui était extrêmement officiel jusqu'au 8e siècle à peu près. Donc le papyrus a été un support important. On a eu les tablettes de cire, ça on les connaît aussi. Par la suite, nous verrons au Moyen-Âge arriver le papier, qui sera le dernier grand support. Alors j'ai oublié de dire qu'avant le papier, nous avons évidemment le parchemin. À partir du 2e siècle de notre ère. Un autre support qu'on oublie, par exemple, c'est les murs. Les murs, par exemple, sous l'Empire romain, parlaient énormément. Un mur permettait de régler quelques différends avec son voisin. Ça permettait aussi de déclarer sa flamme. Ça permettait aussi d'avoir une campagne politique. Le candidat pouvait dire tout ce qu'il allait faire et ses opposants pouvaient dire tout ce qu'il n'allait pas faire.
Donc l'interdiction défense d'afficher n'existait pas. Carrément, on utilisait le mur comme support pour l'écriture.
Oui, et puis quelque chose qui nous est resté aussi sous les Grecs. Lorsqu'il y avait une personne qui devenait indésirable dans une cité, on inscrivait son nom sur un petit morceau de poterie, un fragment de poterie, et on mettait ce morceau de poterie dans une urne. Et lorsque le nom de la personne revenait trop souvent, alors elle était expulsée de la cité. Alors, ostracon, morceau de poterie, ostracisme, ça nous vient de là.
C'est une très belle explication. On n'a sans doute jamais entendu comment ce mot est né. Ouais. Et qui décidait? C'était les magistrats de la ville ou
alors, c'était les notables, oui, qui étaient au conseil.
Toutes les semaines ou...
Alors, je ne sais pas quelle était la périodicité, mais apparemment, lorsqu'un nom apparaissait trop souvent, ça posait problème.
Bon, d'autres temps, d'autres mœurs.
art et foi sur Radio Grand Ciel.
Donc, on est dans le sujet de l'écriture, déjà. Oui. Est-ce qu'on a une idée comment les... Enfin, on sait que les Indiens, ils communiquaient par fumée.
Alors,
une tradition orale aussi.
Alors, ils avaient une tradition orale. On sait qu'ils avaient aussi un système de dessin qu'on a pu retrouver. Sur les Indiens, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à rechercher et à découvrir. Ils avaient certainement une culture et un savoir qui étaient bien plus vastes que ce qu'on peut aborder à l'heure actuelle ou connaître. Pour nous, au niveau de l'écriture américaine, évidemment, les écritures, eh bien, ça va être avec les colonies. Donc, il y a deux grandes nations présentes en Amérique du Nord, l'Angleterre et puis la France. Et donc, eh bien, les colons qui vont arriver en Amérique, sous l'Amérique coloniale, apportent les écritures utilisées en Europe. Par exemple, quand on prend l'édiction de la France par la suite, et puis la guerre d'indépendance, va donner lieu à une déclaration d'indépendance aussi, et ce document va être fait dans une écriture qu'on appelle l'écriture dite anglaise, donc une écriture coloniale. On peut remarquer que fin du XVIIIe siècle aussi, nous avons des manuels qui apparaissent, des manuels d'écriture, dont un qui s'appelait « Le meilleur compagnon du jeune Américain », où on lui apprend dans ce livre nombre de choses, et entre autres, eh bien, le tracé de quelques lettres, et ces lettres se font en écriture anglaise. Donc nous avons, en Amérique coloniale et par la suite avec son indépendance, les écritures du vieux continent. Alors nous avons quelque chose qui va changer, une très belle histoire je trouve. C'est un homme qui va naître en 1800 dans la banlieue de New York. Il s'appelle Roger Platt Spencer. Et cet homme-là, qui perdra son père très jeune, puisqu'il perd son père à l'âge de 6 ans, puisque son père s'était battu dans les armées des patriotes contre le roi d'Angleterre. Sa famille, qui était extrêmement pauvre, va décider de partir un peu plus loin dans les terres. Et ce jeune garçon est fasciné par l'écriture. Ces gens, il faut bien le rappeler, sont pauvres. Ils vont s'installer beaucoup plus loin par la suite, sur les berges du lac Erie. Et bien, ce jeune garçon va tracer des lettres dans le sable. Il va tracer des lettres sur des morceaux de cuir qu'un artisan va lui donner. Il va avoir sa première feuille de papier qu'à l'âge de 8 ans. Parce que bon, les enfants travaillent de très bonne heure, il a un peu d'argent, et il va pouvoir acheter une feuille de papier, pas un bloc. Et cet argent, il va le confier à un bûcheron, et le bûcheron va aller en ville, la ville était distante d'une trentaine de kilomètres, et ce jeune garçon va attendre le retour du bûcheron tard la nuit pour avoir sa feuille. Donc sa première feuille, il va commencer à tracer quelques petites écritures, et il ne sera absolument pas satisfait de ce qu'il a fait. Il vit donc dans la nature, parce que cette nature est vierge à cette époque-là. Il va aller dans une école d'un bourg un peu plus important. Et à l'âge de 11 ans, eh bien, le directeur de l'école lui demande de montrer comment il trace ses lettres à ses camarades, comment on fait pour écrire. À 14 ans, son écriture est déjà très intéressante, tellement intéressante que le directeur de cette petite école lui demande de réaliser tous les modèles d'écriture pour l'école. À 15 ans, donc très jeune, il a ses premières classes pour adultes en écriture commerciale.
Est-ce que c'était un don inné ou est-ce qu'il avait quand même suivi des cours à l'école pour apprendre l'alphabet ?
Alors, seul, il traçait bien des caractères puisqu'il voyait quelques notes manuscrites ici et là et puis des notes aussi ou des placards qui étaient imprimés. Et dans ses mémoires, il disait que très jeune déjà, il avait été frappé par la laideur de nombre d'écritures de ses contemporains.
Art et foi sur Radio Grand Ciel.
Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. I met a redneck on a Grecian Isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile. but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh,
nous sommes avec Eric Montigny qui nous parle de la naissance d'une calligraphie américaine spéciale grâce à un jeune garçon dont vous avez commencé à raconter l'histoire.
Oui, donc ce jeune garçon du nom de Platt Roger Spencer, qui va être depuis tout petit être fasciné par l'écriture, va développer un nouveau style basé sur l'anglaise, puisqu'il va s'inspirer de nouvelles formes, de l'ovale dégalé, puisqu'il en voit quand même pas mal, et puis des cours d'eau, des ondes qu'il peut voir ici et là. Donc la nature est vraiment un élément essentiel de cette nouvelle graphie. D'ailleurs, il va écrire nombre de poésies, puisqu'il était aussi connu pour ses poésies. Et dans une de ses poésies, il décrit un petit peu cette écriture, comment il la voit.
C'est vrai que quand on voit une lettre manuscrite par un Américain, quel que soit son âge, on reconnaît cette écriture qui a des grandes arabesques au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne. Est-ce lui qui est à l'origine de cette manière d'écrire ? Qui distingue bien les Américains par rapport aux Européens qui ont des écritures finalement très variées et variables ?
Très varié, ça c'est sûr, parce qu'on est, nous, sur un continent extrêmement riche, avec une culture foisonnante, ce qui n'était pas le cas au début des États-Unis d'Amérique. N'oublions pas qu'il y a certains présidents qui décourageaient les jeunes Américains d'aller en Europe, parce qu'ils craignaient que si ces jeunes Américains allaient en Europe, ils ne reviendraient jamais aux États-Unis, puisque l'Europe était quand même le berceau de toutes les cultures, quasiment. Donc aux États-Unis, oui, eh bien, ce jeune garçon fasciné par l'écriture va développer une nouvelle forme. Alors elle est basée sur l'écriture anglaise qui est largement diffusée sur tout le continent européen. Il va avoir des majuscules assez grandes, des fois richement décorées. Et ça, c'est vraiment un exercice de haute voltige, comme on pourrait dire, une grande maîtrise gestuelle. Et la grande différence par rapport à l'écriture anglaise aussi, c'est au niveau des minuscules. Elles sont beaucoup plus petites que les minuscules de l'écriture anglaise.
Quelles sont les particularités de l'écriture anglaise par rapport à l'écriture d'un petit écolier français ?
Oui. Alors l'écriture anglaise, en fait, nous, on l'a utilisée largement en France, hein, comme dans la plupart des pays d'Europe. Peut-être un peu moins dans les pays germanophones, puisqu'il y a eu d'autres types d'écriture qui avaient été privilégiées, sur lesquelles on insistait.
L'écriture Sutherlin.
La Sutherlin Schrift, par exemple. Et puis, une autre écriture qui a perduré, un type de gothique fracture. Mais c'est vrai que dans les écritures cursives quotidiennes, c'était la Sutherlin qui était largement utilisée.
La fracture, c'était plutôt dans les livres.
Dans les livres. Mais nombre d'écoliers apprenaient quand même à la plume, avec des plumes larges, à continuer à tracer des caractères de type gothique fracture.
Donc aux États-Unis, pour apprendre aux écoliers à faire ces belles lettres en arabesque, j'imagine qu'ils devaient écrire des pages et des pages.
Oui.
Pas sur du papier. On a vu la cherté du papier, du support. Donc sans doute le petit tableau noir.
Alors il y avait les tableaux, c'est vrai, mais nous avions déjà le papier qui était largement diffusé. Des papiers de mauvaise qualité en général dans les écoles, c'était un classique, mais il y avait quand même du papier. Et il ne faut pas oublier que ces gens étaient assez pauvres, de même qu'en Europe, et on ne gaspillait certainement pas le papier. Donc il fallait faire beaucoup d'attention, il fallait faire des efforts par rapport à l'écriture. Donc il était hors de question de faire des tâches à chaque mot, hors de question de se tromper ou de faire des ratures. On sait très bien, on dira même dans les années 50 en France, l'enseignement de l'écriture n'était quand même pas quelque chose de facile. C'était extrêmement rigoureux.
Les anciennes générations apprenaient à remplir des pages des cahiers de brouillon avec des lettres pour bien apprendre le tracé.
Alors, il y avait une double exigence au niveau de l'apprentissage de l'écriture. Les méthodes les plus extrêmes se voient fin 19e siècle. Il faut imaginer que l'écriture est quelque chose d'extrêmement important. Non pas parce qu'on considère qu'il faut faire que des belles lettres. Non, ça va au-delà. Évidemment qu'il faut avoir une belle écriture, puisque la plupart des gens vont pouvoir travailler pour une société. Ils vont être peut-être dans un travail de secrétariat et il faut donner une bonne image de la société pour laquelle ils vont travailler. Donc l'écriture est un vecteur de communication important. L'autre élément, c'est que dans l'apprentissage très sérieux et très poussé de l'écriture, ça permet de former le caractère. Oui, de la lettre, c'est sûr, mais de l'individu, de l'élève. Parce que dans l'écriture, on respecte les lignes, on respecte les espacements, on respecte les inclinaisons. Donc l'écriture est une discipline et on insiste énormément dessus.
Et c'est encore le cas aujourd'hui ?
Malheureusement, non. Non, je crois que de nos jours, l'écriture, on n'y passe plus assez de temps et il n'y a plus même de formation réellement sérieuse par rapport aux enseignants qui vont par la suite œuvrer dans les écoles. Ce sont des chapitres qui ont disparu.
Et puis c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, l'ère de l'informatique.
Alors oui, l'ère de l'informatique est quelque chose de très important. Moi-même, je l'utilise énormément. Mais attention, il ne faut pas considérer que ça va remplacer. Le maniement même, ne serait-ce que d'un stylo bille, à l'heure actuelle, est un élément fondamental dans le développement de l'individu. Alors pour le jeune enfant, c'est très important, mais même pour l'adulte. Le maniement d'un stylo est beaucoup plus demandant que le maniement d'un clavier ou d'une souris. Donc, dans une écriture de type cursive, comme ce que nous avons en France, c'est une activité supérieure chez l'être humain. C'est une activité qu'on appelle psychophysiologique. Donc, il ne faut pas la négliger.
Donc, c'est intéressant de réintroduire justement cet exercice de tracer des lettres, car l'enfant est obligé de se poser,
oui.
D'apprendre la latéralité.
C'est ça.
Faire travailler les deux hémisphères cérébraux.
C'est ça. Ça permet de recentrer l'individu qui va faire ses pages d'écriture. Ça permet de développer la concentration, la graphomotricité fine. Donc, ce sont plein d'éléments extrêmement importants. Et les choses qui sont négligées à l'heure actuelle, c'est que lorsque vous voyez un enfant, par exemple, qui est en école primaire, lorsqu'il va tracer, en fait, il ne va pas écrire sur son cahier, il va graver. Tournez la page, vous allez pouvoir passer la main dessus, vous verrez, il va fortement appuyer. Donc ça crée une tension et ça, ce n'est pas bon. L'autre chose qui n'est pas bonne, vous verrez, le bout des doigts des enfants, lorsqu'il tient un stylo, en fait, il ne le tient pas, il le serre. Il crée une deuxième tension. Une autre tension facilement identifiable, un enfant à l'école, il est collé contre son plan de travail. Donc il bloque la respiration, c'est encore des tensions. À autrefois, tout cela a été vu, aussi bien la position de l'outil scripteur dans la main que la position par rapport à son pupitre et ainsi de suite.
God got the key and you can't get in. Listen, how's it raining? Will you listen? How's it raining? Just listen, how's it raining? All day, all night, all night, all day. Just listen, how's it raining? Just listen, how's it raining? Just listen, how's it raining? Some moaning, some groaning, some groaning. I'm praying, well, oh.
Alors, les Américains ont inventé une calligraphie bien spéciale, bien à eux. Ils ont inventé aussi le stylo à billes dans les années 30.
Oui, certainement dans les années 30 par la suite. Et ça, ça a été un outil assez fabuleux, même si l'écriture a été fortement décriée avec ce qu'on pouvait faire avec. Le stylo à billes, c'est la première fois que nous avons un stylo à encre. Et on n'a pas besoin d'emporter son encrier. Il contient tout. Donc ça, ça a été un élément aussi très important dans le développement par la suite de tout ce qui était écriture manuscrite.
Donc sans les délier, sans les pleins, sans les...
Pas possibilité de délier, pas possibilité de plein, mais une plus grande exécution de l'écriture, puisqu'il n'y a plus besoin de tremper la plume.
Donc une rapidité aussi qui va de pair avec l'utilisation de cette nouveau outil d'écriture.
Oui. Et donc les réformes qui vont s'en suivre. Mais bon, les réformes sont très anciennes. On va revenir à notre jeune Américain qui va devenir secrétaire aussi, qui va publier nombre de poésies. Et ce jeune Américain va devenir un penman, donc un homme de plume. C'est-à-dire que l'enseignement aux États-Unis est très différent de ce qu'on connaît en Europe. Ce sont de très grandes étendues. Il n'y a pas grand-chose et on a besoin de temps en temps d'écrire ou d'apprendre à écrire. Donc il est penman itinérant, il va de bourgade en bourgade, il va placarder dans la ville quelques affiches en disant qu'il fait une grande exposition au Grand Hôtel. Et puis les gens viennent voir l'exposition avec des éléments d'écriture, des outils, ainsi de suite. Et les gens intéressés vont s'inscrire pour une semaine, de cours. Spencer va donner des petites bandes de papier. Donc, on ne donne pas une page, hein, on donne des bandes de papier sur lesquelles il y a une phrase ou deux de sa main. Ça fait toujours une référence par rapport au modèle qu'il développe et qu'il diffuse. Si les auditeurs ont en tête une petite image de la petite maison dans la prairie, cette petite cabane, eh bien imaginez que cette petite cabane de rondins de bois, eh bien ça a été aussi son académie d'écriture. Donc au milieu de nulle part, en plein dans une prairie, eh bien vous avez cette petite maison, c'est une académie d'écriture, et à l'extérieur, vous voyez des gens en chapeau de forme, ils viennent apprendre. Ce Spencer donc, va publier quelques manuels et puis il meurt en 1864, donc assez jeune. Et ses enfants et ses élèves vont diffuser l'écriture. Alors ça, c'est tout à fait inédit et étonnant. Vers 1880, par un phénomène purement naturel, son écriture s'est diffusée à l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas imposé par le gouvernement américain. Et on a pour preuve que vers les années 1880, nous avons le directeur aux affaires indiennes qui va demander des manuels afin d'apprendre l'écriture et la lecture aux Indiens. Et on lui répond qu'il est inutile d'engager de nouvelles dépenses publiques, d'argent public, on avait la notion d'argent public, puisqu'il existait d'admirables livres d'écriture spencerienne. Et ça, ça marque le début de l'âge d'or de l'écriture aux États-Unis, puisque même début XXe siècle, je dirais même au-delà, la première moitié du XXe siècle, nous avons toujours nombre d'hommes de plume, des penmen, à travers tous les États-Unis d'Amérique, malgré les écritures mécanisées. Le dernier numéro de la revue des penmen sort en 1967. Donc, c'est pas très vieux.
Donc, les gens étaient déjà alphabétisés et ils apprenaient l'écriture à l'école, mais on ne faisait pas attention à la calligraphie. Et grâce à Spencer, à ses livres et à sa famille, son type d'écriture va se répandre dans toute l'Amérique.
Alors, c'est un phénomène important. Dans les écoles, bon, on fait quand même attention. Hein. Il y avait des modèles qui étaient enseignés, très souvent des modèles anglais. Parce que les États-Unis, c'est quand même une multitude de populations qui venaient des quatre coins du monde. Et donc, tous ces gens arrivent avec leur propre écriture. Et ce qui veut dire que l'écriture de Spencer est un élément aussi fédérateur. Donc, ça va rassembler eh bien, toute une nation au niveau de l'écriture. N'oublions pas qu'en Amérique du Nord, eh bien, certains Américains, puisqu'ils habitaient là-bas, ont utilisé l'écriture gothique fracture, notamment des communautés germanophones installées pas très loin des chutes du Niagara. Donc, ils arrivaient avec ce bagage culturel utilisé. Donc, l'écriture de Spencer est une écriture majeure. Donc, elle va être un élément fédérateur de la nation américaine et utilisée par la suite dans toutes les écoles américaines.
Alors, est-ce que la graphologie peut jouer son rôle dans un pays où il y a une uniformisation qui joue à plein son rôle ?
Oui, la graphologie, il y a toujours des grands traits, quel que soit le type d'écriture, quelle que soit la culture. Donc, on peut, par exemple, étudier la vitesse d'exécution, les éléments qui sont appuyés, la régularité, voir si dans cette régularité, il y a aussi un séquençage, un rythme. Donc, oui, la graphologie peut jouer, quelle que soit l'écriture.
Alors, l'équivalent d'un penman, on en parle en Europe, j'imagine.
Alors, nous avions des maîtres d'écriture, mais là-bas, ils avaient donc des maîtres de plume. Donc, le nom est un tout petit peu différent, comme d'habitude.
Donc, comment est-ce qu'on peut déterminer la calligraphie ? Comment est-ce que vous la décririez, si vous deviez distinguer la calligraphie américaine d'une calligraphie européenne ?
Alors, déjà, puisque c'est une calligraphie, c'est forcément un exercice de haute voltige. C'est basé sur la maîtrise du mouvement, le rythme, l'harmonie, ça c'est très important. Et la calligraphie américaine, donc basée sur l'écriture de Spencer, elle est caractérisée par des majuscules beaucoup plus grandes, des fois avec des éléments extrêmement complexes, puisque l'écriture de type cursive ou écriture à pression, comme l'anglaise ou l'américaine, sont des écritures supérieures au niveau du tracé. C'est très exigeant au niveau du cerveau.
Alors, comme l'imprimerie existe depuis belle lurette déjà, on ne trouve pas, j'imagine, aux États-Unis, des manuscrits, des livres écrits par la main ou des documents écrits par la main.
Alors, bon, on a nombre de documents, tout de même manuscrits, les lettres des pionniers, les registres paroissiaux. Par la suite, c'est vrai que nous allons avoir une grande diffusion de l'écriture par les systèmes mécanisés, notamment la presse aussi, puisque la presse est bien présente.
Est-ce qu'ils ont aussi développé peut-être une sorte de papier, bien eux ou...
Non, les recettes de papier étaient toujours les mêmes. Ce qu'ils vont développer, par contre, un objet très important, ça va être une machine développée par une compagnie Scholl & Glyden. vers 1875, et ça s'appelle la première machine à écrire. Réellement la première machine efficace qu'on peut utiliser avec un clavier, et ça marche bien. Cette société va être rachetée par une autre grande société que tout le monde connaît, Remington. Et donc, avec la machine à écrire, eh bien, c'est une grande concurrente des écritures manuscrites. Puisque fin du 19e siècle, on a des concours, notamment en Amérique du Nord, où un bon dactylo va faire 125 mots minutes et un bon secrétaire à la plume en fait 27.
Alors, on sait que ceux qui maîtrisent bien l'écriture à la machine à écrire, ils ne déchiffrent pas le texte. Une bonne secrétaire qui tape plusieurs centaines de lettres à la minute ne sait pas ce qu'elle vient de taper.
Oui.
C'est idéal pour cacher des secrets, j'imagine.
Aussi. Alors, même si on a eu l'écriture mécanisée avec la machine à écrire, ce n'est pas le seul point qui est notable. Malgré les écritures mécanisées qui se développent très, très rapidement, l'écriture manuscrite reste essentielle aux États-Unis d'Amérique. On continue pendant cette première partie du XXe siècle à enseigner les écritures de type Spencerian et dans des styles extrêmement sophistiqués. Ça continue à donner une excellente image par rapport à une société. Ça permet de faire des lettres de reconnaissance, des diplômes et ainsi de suite. Et n'oublions pas qu'aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, il y a 3 calligraphes à plein temps à la Maison-Blanche.
Et si on s'intéresse au sujet, est-ce qu'il y a peut-être un livre que vous pourriez nous faire découvrir ?
Alors, des livres, il y en a peu, puisque en Europe, on ne s'est pas penché du tout sur les écritures américaines. Mais si les gens vont aux États-Unis, oui, il existe des petites méthodes qui remontent aux années 30 qui sont rééditées. Ça, c'est tout à fait étonnant aussi, par rapport au système d'écriture. Comment on doit former les caractères, et ainsi de suite.
Et il paraît qu'aussi, ce sont les Américains qui ont inventé le stylo à plume jetable.
Alors déjà, ils avaient une plume particulière, puisque la plume est métallique voit le jour en 1822 en Angleterre. Par la suite, ça va très vite se répandre. Et les Américains, comme vous savez, ils sont toujours un peu pragmatiques. Eh bien, ils vont mettre une petite capsule d'encre sèche sous la plume. Elle va être attachée par un bout de métal. Ce qui faisait qu'avec ce genre de plume, on la trempe dans l'eau, l'encre se fait et on écrit. La cartouche est épuisée, on jette la plume, on en prend une autre.
Voilà, nous n'allons pas jeter cette émission qui était fort intéressante. Nous remercions très chaleureusement Eric de Montaigny qui nous a fait découvrir les calligraphies américaines. Je remercie les auditeurs pour l'attention qu'ils ont prêtée à notre émission. Et si jamais vous voulez redécouvrir toutes vos émissions préférées, allez sur le site radiograndciel.fr où vous allez pouvoir vous délecter. Très belle journée. Merci beaucoup Eric de Montaigny.
Merci.
Au revoir.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.